VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, édition de 19h30 en temps universel du mercredi 15 janvier 2020. Et Kabadou à la présentation, voici les titres. En République centrafricaine, procès de deux chefs de milice et de 29 de leurs hommes pour leur rôle présumé dans les massacres en 2017. Il est trop tôt pour parler d'un échec du cessez-le-feu en Libye, selon la Turquie, malgré le refus de Khalifa Haftar de signer un accord. Les États-Unis et la Chine ont signé un accord commercial dit historique par le président Trump. Au Congrès américain, la Chambre des représentants vote pour transmettre les actes d'accusation du président Trump au Sénat. Et puis ne manquez pas dans 10 minutes l'actualité économique et l'export, mais tout d'abord le journal. En République démocratique du Congo, les autorités de Kinshasa ont interdit une marche vendredi à l'appel de l'opposant ex-candidat Martin Fayoulou contre ce qu'il appelle la balkanisation et les massacres des civils dans l'est du pays. Le gouverneur de Kinshasa, Gentil Ngobila, a rappelé que le 17 janvier est un jour férié à la mémoire du héros national, Patrice Emery Lumumba, assassiné le 17 janvier 1961. Toujours en République démocratique du Congo, 14 personnes ont été tuées dans deux attaques sur dans l'est du pays. 5 policiers et 1 civil ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi dans l'attaque d'un commissariat dans la province de l'Ituri. Par ailleurs, le nouveau commissaire de police de Lubumbashi, capitale du Kananga, a demandé l'aide des habitants contre l'insécurité dans la ville. En Centrafrique, le retour inattendu de deux ex-présidents centrafricains principaux initiateurs d'une guerre civile, François Bozizé, celui qu'il a renversé en 2013, Michel Djotodia, laisse augurer des alliances et contre-alliances à un an de la présidentielle. Nombre d'observateurs voient dans leur retour d'exil des deux frères ennemis la volonté de Bozizé, rallié par une partie de l'opposition, de revenir à la tête du pays. Toujours en République centrafricaine, la cour criminelle du tribunal de Bangui a ouvert le procès de Crépin Yakanam et Kevin Béré-Béré, deux chefs de milice ainsi que 29 autres de leurs hommes pour leur responsabilité dans les violences ayant entraîné la mort de nombreux civils et de 10 casques bleus en 2017 dans le sud-est du pays. Nous y reviendrons en partie magazine. Un virulent détracteur du président libyen George Weah a indiqué être retenu en Sierra Leone voisine alors qu'une enquête est en cours contre lui au Libéria pour falsification présumée de documents de voyage. Les médias libyens disent qu'il a été arrêté à l'instigation du Libéria et est en passe d'être renvoyé dans ce pays. 5 Soudanais, dont 2 soldats, ont été tués lors de l'assaut des forces gouvernementales contre 2 bases des services de sécurité où une minuterie a éclaté mardi. Nathalie Barge.
Des tirs ont eu lieu mardi sur 2 bases de la région de Khartoum hébergeant l'ex-service national de renseignement et de sécurité. Le porte-parole du gouvernement Faisal Mohamed Saleh avait fait état d'un début de rébellion lancé par des membres de l'ex-NISS qui rejetaient la somme reçue pour leur retraite. En soirée, les troupes des forces de soutien rapide ont pris d'assaut les bases au milieu de tirs intenses et repris le contrôle de ces sites. Déclaré le chef d'état-major Ousmane Mohamed Al-Hassane, précisant que 2 soldats ont perdu la vie et que 4 autres, dont 2 officiers, ont été blessés. 3 civils appartenant à la même famille ont été tués par balle près d'une des bases lors de l'assaut. Hier soir, le chef des RSF, Mohamed Hamdan Daglo, a accusé l'ancien patron du NISS, Salah Ghosh, d'être derrière cet acte qu'il a qualifié de rébellion. M. Ghosh avait démissionné 2 jours après la destitution de Omar el-Béchir et le lieu où il se trouve n'est pas connu.
La France se dit particulièrement préoccupée par les violences politiques en Guinée où le projet de 3e mandat prêté au président Alpha Condé est très contesté et appelle à l'apaisement dans ce pays, a déclaré la chef de la diplomatie française. Nous reviendrons sur la situation en Guinée dans notre partie magazine. La Turquie rejette l'idée d'un échec du cessez-le-feu en Libye en dépit du refus de l'un des belligérants de signer un accord formel lors de négociations à Moscou lundi. Le point avec Abdourahmane Dia.
Il est trop tôt pour parler d'échec, a déclaré le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar. Rien sur le terrain ne montre une telle chose, a-t-il ajouté. Une trêve a été instaurée dimanche après un accord entre Ankara, qui soutient le GNA, et Moscou, qui est soupçonné d'appuyer Haftar malgré ses dénégations. Des négociations visant à définir les modalités de cette trêve se sont tenues lundi à Moscou, mais le maréchal Haftar a quitté la capitale russe sans signer le document. Malgré ce revers, la Russie a affirmé mardi que la trêve était prolongée de manière indéfinie. Une conférence internationale doit se tenir dimanche à Berlin. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a décidé d'envoyer des troupes en Libye, a menacé hier d'infliger une leçon aux forces du maréchal Haftar si elles reprenaient leur offensive contre le gouvernement de Tripoli. Le ministre turc de la Défense a indiqué qu'un bureau de coopération militaire serait mis en place en Libye, ajoutant que sa taille évoluerait en fonction des besoins.
Les autorités égyptiennes ont arrêté 4 employés de l'agence de presse étatique turque Anadolu, une mesure susceptible d'envenimer les relations déjà tendues depuis plusieurs années entre Ankara et le Caire.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, l'élu démocrate Adam Schiff a été chargé de superviser l'équipe de procureurs au procès de Donald Trump devant le Sénat américain. L'annonce a été faite ce matin par Nancy Pelosi, chef des démocrates au Congrès, avec le vote en plénière de la Chambre des représentants. Plus de précisions avec Bagassi Koura.
Adam Schiff, ancien procureur fédéral en Californie, a dirigé l'enquête parlementaire à la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, qui a retenu en décembre les chefs d'accusation d'abus de pouvoir et d'entrave à la bonne marche du Congrès contre le président américain. Parmi les autres procureurs désignés figure le chef de la commission judiciaire, Ralph Nadler, qui a écrit l'acte d'accusation, et 5 autres élus, dont Zoé Lofgren, qui avait participé aux procédures de destitution contre Richard Nixon et Bill Clinton. Adam Schiff et les 6 autres procureurs désignés doivent être formellement nommés lors d'un vote à la Chambre basse. Ce vote en plénière décide de la transmission du dossier au Sénat. Plus tard dans la journée, les représentants traverseront le Capitole pour apporter officiellement l'acte d'accusation au Sénat, la Chambre haute dominée par les Républicains, qui devra juger plus tard le président américain.
Le président Donald Trump a salué un accord commercial historique entre les États-Unis et la Chine peu avant la signature du document avec le principal négociateur chinois, Liu He. Le point avec Eric Manirakiza.
Aujourd'hui marque une étape historique, une étape qui n'a jamais été franchie avec la Chine, vers un accord commercial juste et réciproque entre les États-Unis et la Chine, a déclaré le président Donald Trump durant la cérémonie à la Maison-Blanche. M. Trump a aussi confirmé devant le vice-premier ministre chinois Liu He qu'il se rendra bientôt à Pékin. Pour le vice-président américain Mike Pence, ce jour marque le début d'un nouveau chapitre dans les relations commerciales entre les deux plus importantes économies du monde. L'accord marque une trêve dans une guerre commerciale qui a bien pesé sur les économies des deux pays. Outre des achats de quelques 200 milliards de dollars de biens américains supplémentaires par Pékin, l'accord prévoit d'importants volets permettant aux entreprises américaines de faire affaire en Chine plus librement ou sur des bases juridiques plus solides, notamment en matière de respect de la propriété intellectuelle ou encore de transfert de technologies.
En Chine, le risque que la mystérieuse pneumonie virale touchant actuellement le pays soit transmissible entre humains est faible, mais pas exclu. C'est ce qu'ont annoncé les autorités sanitaires chinoises. En Russie, nomination de Mikhail Mouchistine est intervenue tout juste après l'annonce surprise de la démission de Dmitri Medvedev, chef du gouvernement en poste depuis près de 8 ans. Monsieur Mouchistine était jusque-là le chef du service fédéral des impôts. 4 roquettes ont été tirées vers Israël depuis la bande de Gaza. Première frappe en direction de l'État hébreu depuis le raid américain contre le général iranien Qassem Soleimani, a annoncé l'armée israélienne. En réponse, son mouvement avait répliqué avec plus de 450 tirs de roquettes vers Israël, dont la majorité avait été interceptée par le système antimissile israélien. Au Liban, la colère populaire s'est exprimée contre des banques du pays engluées dans une crise économique et une impasse politique, avec des actes de vandalisme contre des établissements ayant adopté des restrictions de plus en plus sévères envers leurs clients. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. l'actualité économique en Afrique et dans le monde, c'est dans la Minute Éco avec Mani Salami.
En République démocratique du Congo, la GECAMINE, la Société minière nationale, a inauguré la mine et l'usine de traitement de cuivre et de cobalt de Déziwa. Ce gisement à l'est de Kolwezi devrait contenir 4,6 millions de tonnes de cuivre et 420 000 tonnes de cobalt. Elle devrait produire 80 000 tonnes de cuivre et 8 000 tonnes de cobalt par an. Somidez, la co-entreprise qui la contrôle, est détenue à 51% par la Chine et à 49% par la GECAMINE. L'Égypte a commencé à recevoir du gaz naturel d'Israël qui sera liquéfié puis exporté en Europe dans le cadre d'un accord évalué à 13,3 milliards d'euros entre les deux pays. L'Égypte ambitionne de devenir un hub régional dans le domaine du gaz. L'accord sur le gaz signé l'an dernier prévoit l'approvisionnement issu des gisements gaziers de Léviathan et Tamar en Israël. Pour terminer, le nombre d'enlèvements de marins a grimpé de 50% l'an dernier dans le golfe de Guinée, qui s'étend des côtes du Sénégal à celles de l'Angola, en passant par celles du Nigeria, a annoncé le Bureau international maritime. Ce chiffre représente plus de 90% des cas dans le monde. Le bureau appelle à renforcer la coopération internationale contre la piraterie qui coûte des milliards de dollars chaque année à l'économie mondiale. Dans le golfe de Guinée, elle a coûté 818 millions de dollars rien qu'en 2017.
C'est le moment de notre page sportive présentée ce soir par Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Ekia, bonsoir à tous.
En football, la CAN ramenée à l'hiver au Cameroun.
Oui, la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun en 2021 se jouera en hiver au lieu de l'été. Un retour à la situation qui prévalait avant la dernière édition de la compétition en Égypte. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la Fédération camerounaise de football. La CAN se jouera au Cameroun du 9 janvier au 6 février. Lit-on sur la page Facebook officielle de la FECAFOOT qui ajoute date modifiée pour des raisons météorologiques à la demande du Cameroun. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'historiquement, la période normale de la compétition était en janvier et février, avant que le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, ne change cette donne à la surprise générale à peine élu en 2017. Pour succéder au Camerounais Issa Hayatou, il avait alors annoncé que la compétition phare du foot africain se déroulerait dès l'édition 2019 en Égypte, l'été et non plus l'hiver. L'annonce de ce mercredi est donc un revirement.
Coupe d'Angleterre, Tottenham et Newcastle au quatrième tour.
Oui, tenu en échec lors du premier match, Tottenham et Newcastle ont obtenu leur billet pour le quatrième tour de la Coupe d'Angleterre ce mardi en prenant le dessus sur Middlesbrough 2 buts à 1 et Rochdale 4 à 1. Les Spurs qui n'avaient pas pu faire mieux que 1-1 sur le terrain du 16e de Championship le 5 janvier ont cette fois-ci bouclé l'affaire en un quart d'heure. Au prochain tour, les Spurs se rendront à Southampton le 25 janvier pour affronter l'une des équipes en forme de Premier League. De son côté, Newcastle, qui menait 3-0 au bout de 26 minutes, n'a pas beaucoup souffert pour prendre le meilleur sur Rochdale, qui avait arraché l'égalisation à la 79e minute lors du premier match. Newcastle recevra Oxford de la Division 3 pour le quatrième tour.
En NBA, Antetokounmpo et les Bucks remportent leur 10e victoire de rang.
Oui, avec 37 points à lui tout seul face aux Knicks, 128 à 102. Gianni Antetokounmpo a une nouvelle fois de plus porté les Bucks vers les sommets, permettant à Milwaukee de conforter son rang de leader de la NBA cette saison. Avec ce quatrième succès consécutif, les Bucks comptent 36 victoires pour 6 défaites. C'est la 13e fois que les Bucks l'emportent avec plus de 20 points d'écart. En seulement 21 minutes sur le parquet, Antetokounmpo, ce grec d'origine nigériane, MVP de la saison passée, a également capté 9 rebonds et donné 4 passes décisives. Les Mavericks de Dallas ont eux remporté une large victoire, 124 à 97, contre des Warriors qui enregistrent leur 9e défaite de rang. Largué en queue de conférence, Golden State a de plus perdu son arrière Jacob Evans, victime d'un involontaire coup de coude, un blessé de plus à l'infirmerie des Warriors, déjà contraint de se passer des vedettes Klay Thompson et Stephen Curry.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique et VOAfrique.com et Kabadou toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Le président français Emmanuel Macron a assuré que la lutte contre le terrorisme va désormais se concentrer sur le groupe État islamique en Grand Sahara. Ce groupe a été créé en 2015 par Abou Walid Abnan al-Sahraoui, ancien membre du Front Polisario, puis de la mouvance Al-Qaïda au Maghreb islamique et membre du mouvement pour l'unicité de Dieu qui avait pris contrôle du Nord malien en 2012. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint le journaliste, écrivain et spécialiste du terrorisme dans le Sahel, Cédric Abba.
On parle de 500 personnes au départ, puisque une dizaine de mouvements s'étaient fédérés dans l'État islamique au Grand Sahara sous la direction de Abou Walid al-Sahraoui. Et très vite, ce mouvement a fait du recrutement local, a pris une grande ampleur, et c'est ce qui explique aujourd'hui la puissance militaire, parce que il n'y a pas qu'au Niger et au Mali, l'État islamique a fait des opérations aussi au Burkina Faso et dans toute la sous-région. Aujourd'hui, sur la zone des trois frontières qui concernent le Burkina Faso, le Mali et le Niger, c'est le mouvement terroriste le plus puissant, à la fois par la capacité et aussi parce qu'il est important de comprendre que lorsque l'État islamique a été défait en Irak et en Syrie, un certain nombre de combattants sont revenus et se sont infiltrés par la Libye pour rejoindre l'État islamique au Grand Sahara. C'est cette expertise-là qui explique aujourd'hui les grandes opérations militaires qui sont dignes des armées aguerries qui sont portées par l'État islamique au Grand Sahara contre le Niger, contre le Mali, sur cette zone des trois frontières.
Et comment il parvient à se dissimuler avec toute la traque?
Dans la zone des trois frontières, il y a une partie très arborisée, c'est pas la forêt dense, mais il y a une partie dans laquelle les mouvements djihadistes ont trouvé un repère, ont trouvé une sorte de sanctuaire. À partir de là, ces mouvements-là, parce que cette partie, il faut le dire, échappe au contrôle des trois États. Les trois États, le Niger, le Mali et le Burkina, n'ont pas les capacités opérationnelles, administratives, policières et militaires pour contrôler cette partie-là. La forêt de Krafan, du côté du Niger, du côté du Mali, dans la zone de Meneka, en Songo, et c'est là qu'ils sont implantés, qu'ils profitent de la faiblesse de ces États-là, de la faiblesse de leur capacité. Une colonne qui attaque quand même le camp de Inatef et qui revient, elle ne passe pas inaperçue. Elle a parcouru plusieurs centaines de kilomètres. Si on veut chercher les éléments de l'État islamique au Grand Sahara, ils ne sont pas dans la nature, ils ne sont pas cachés. Il faut avoir les moyens d'aller les chercher là où ils sont. Or, comme vous avez remarqué, aujourd'hui, c'est l'État islamique qui a l'initiative. C'est l'État islamique qui attaque les forces armées maliennes. C'est l'État islamique qui attaque les forces armées nigériennes. C'est l'État islamique qui attaque les forces armées burkinabées. Ce n'est pas les forces qui vont attaquer l'État islamique dans son sanctuaire. Le sanctuaire existe, on le connaît. Maintenant, il faut avoir les capacités, à la fois militaires et la décision politique, pour aller les chercher dans leur nid. Ils ont un nid. Maintenant, il faut s'organiser pour aller les attaquer chez eux.
Vous parlez de la faiblesse des États, mais il y a Barkhane et aussi les Américains qui sont présents dans la région.
Les Américains, on ne connaît pas très bien leur agenda. Aujourd'hui, avec le sommet de Pau, ça a été officialisé. Ils apportent un appui aux forces françaises, un appui en logistique, un appui en renseignement. Mais par ailleurs, ils apportent aussi un appui en formation, parce que les forces spéciales américaines forment les armées du Niger et du Mali. La force Barkhane lutte contre le terrorisme, mais elle a plus été accentuée dans le nord du Mali, dans la région de Kidal, autour de Tombouctou et autour de Gao, où ils ont une force de réaction rapide. Mais dans la zone des trois frontières, Barkhane n'est pas là. Elle a laissé cette partie de la zone des trois frontières aux armées nationales de ces trois pays.
Cédric Abba, journaliste, écrivain et spécialiste du terrorisme dans le Sahel.
Connectez-vous, téléchargez la nouvelle application VOAfrique, disponible sur iTunes et Google Play. L'ancienne application VOA ne sera plus disponible après le 15 janvier 2020.
En Guinée, le calme est revenu après deux jours de violence à Conakry et dans certaines villes du pays. Le Front national pour la défense de la Constitution a lancé lundi 12-13 janvier un mot d'ordre de manifestation illimitée pour contraindre, dit-il, le président Alpha Condé à renoncer à son troisième mandat. À Conakry, la correspondance de Zakaria Camara.
Reprise des activités à Ratoma, commune où des violences ont été enregistrées lundi et mardi, mais si le trafic a repris ici, la tension reste vive dans certains quartiers où des jeunes qui tentaient d'ériger des barricades ont été dispersés par les forces de l'ordre. Face à la crise, l'opposant Baouri propose
enclencher une nouvelle phase de discussion sérieuse avec, disons, l'implication de la CDAO pour que nous trouvions de manière consensuelle une sortie de crise qui prend en compte premièrement la renonciation à ce changement constitutionnel, deuxièmement la reprise des mécanismes pour que le fichier électoral soit en conformité par rapport à la réalité du pays.
Les autorités guinéennes ont annoncé mardi qu'un blessé à l'abbé a succombé à ses blessures. Dans un communiqué, le Front National pour la Défense de la Constitution a salué les actions de résistance et appelle les Guinéens à poursuivre la mobilisation. Dans les rues de Conakry, chacun y va de son commentaire.
Si tous nos leaders disent que l'avenir de notre pays appartient aux jeunes, et en même temps c'est les jeunes-là qui perdent leur vie, ça c'est trop triste.
Ils ont dit que le président n'a qu'à parler s'il va se présenter pour un troisième mandat ou pas, mais non, quand après son mandat, il va dire quelque chose. On va anticiper sur quelque chose qui n'est même pas arrivé à terme.
Nous, on a sorti de la rue, manifesté, dit je ne veux pas un troisième mandat, je ne veux pas un référendum, je ne veux pas une modification de constitution. Je voulais deux mandats en Guinée.
Le peuple se débrouille pour avoir à manger. Mais si on bloque tout, on ferme tout pour les manifestations, qu'est-ce qu'on a ? On n'a rien trouvé. Du lundi jusqu'à l'heure là, c'est tout ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire le 13, ils vont faire le 13, ils n'ont rien fait, sauf la violence. Les bandits sont sur la route, ils bloquent les gens, et puis c'est ça.
Les autorités guinéennes parlent de plusieurs blessés parmi les forces de l'ordre et d'actes de vandalisme. Le gouvernement se dit indigné face aux destructions d'édifices publics et de biens privés. Zakaria Kamara pour VO Afrique, Conakry.
Retrouvez les programmes de VOA Afrique en Guinée sur Radio Milo FM 99.5 à Cancan et à Siguiri, Bolivar FM 99.4 à Mamou, Sabari FM 97.3 à Conakry, Sabou FM 96.6 à Kindia, Soleil FM 93.5 à Conakry.
En Centrafrique, la cour criminelle du tribunal de Bangui a ouvert le procès de Crépin Yakana Meke, Vimbéré Béré, deux chefs de milice ainsi que 29 autres de leurs hommes pour leur responsabilité dans les violences ayant entraîné la mort de nombreux civils et de 10 casques bleus. C'était en 2017 dans le sud-est du pays. Le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme se félicite de la tenue de ce procès qui, selon lui, doit s'étendre à tous les auteurs de crimes sans distinction. Écoutez Joseph Bindoumi, joint à Bangui par Félix Sepassi Zambou.
Depuis 2017, 2018, 2019, la Ligue centrafricaine des droits de l'homme suit avec une grande attention le procès des cours criminels de Bangui et de Bois qui se sont succédés. Et là, au moment où on s'entretient, la cour criminelle de Bangui est en train de se tenir pour examiner les grands dossiers concernant les graves violations des droits de l'homme en République centrafricaine en lien avec la crise que connaît ce pays. Et donc, la Ligue centrafricaine des droits de l'homme se félicite de la tenue de ce procès parce que dans sa vision et dans sa mission de lutter contre l'impunité, la Ligue centrafricaine des droits de l'homme pense que lorsque les personnes mises en cause peuvent se retrouver devant la justice de leur pays et reconnaître ou pas reconnaître les faits qui leur sont reprochés, c'est une avancée significative dans la protection des droits humains, dans la défense des victimes et dans la réparation des dégâts causés sur des innocentes personnes.
Monsieur le Président, ce procès se tient justement dans un contexte où deux leaders des anti-Balaka, je veux citer Ngaï Sona et Katong, se trouvent en ce moment à la haie. Alors que des groupes armés continuent d'écumer l'arrière-pays. N'a-t-on pas l'impression d'une justice à deux niveaux, c'est-à-dire de deux poids, deux mesures?
Nous avons dit à son temps, et nous continuons de l'affirmer, que la justice devrait être plus équilibrée dans la manière de conduire le procès. C'est vrai que le peuple centrafricain ici a constaté que ce sont les responsables des anti-Balaka, Ngaï Sona, Edouard et Katong qui se sont trouvés à la haine. Alors, c'est le même moment comme c'est le cas maintenant. À Abidjan, les hommes de l'UPC continuent de faire des dégâts. Dans beaucoup de zones de notre pays, je pense à Karabandero, je pense à Batanapo, je pense à Bria, il y a encore des gens qui souhaitent ériger des barrières illégales, raquettent les populations, puis l'économie du pays, tuent à volonté, et ces personnes-là sont toujours là. Pour l'instant, ne sont pas recherchés pour être appréhendés. C'est la raison pour laquelle la Ligue centrafricaine des droits de l'homme crie à haute et intelligible de voix pour demander que la justice soit équitable pour toutes les personnes qui sont aujourd'hui en train de tenir la terreur en République centrafricaine.
Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la France et les pays du G5 Sahel veulent renforcer leur coopération militaire contre les attaques terroristes au Sahel. Les présidents de la région souhaitent aussi la poursuite de l'engagement militaire de la France au Sahel, alors que Paris avait demandé une clarification lors du sommet de Pau face aux critiques sur la présence française au Sahel. Comment renforcer cette coopération militaire pour venir à bout des groupes armés? Comment restaurer la confiance sur la présence militaire étrangère dans le Sahel? Nous allons évoquer tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Les candidats à l'investiture démocrate se sont affrontés hier sur bon nombre de sujets lors de leur dernier débat, moins de 3 semaines avant le début des primaires. Jim Malone, grand reporter de la VOA, revient sur les échanges hier à Des Moines, dans l'Iowa. Le récit est de Lionel Gaïma.
Six candidats démocrates ont débattu sur le commerce, les soins de santé et la politique étrangère. Ils ont tous critiqué le président Donald Trump pour les récentes transitions avec l'Iran. L'ancien vice-président Joe Biden.
Nous avons perdu notre position dans la région. Nous avons perdu le soutien de nos alliés. Le prochain président doit être capable de rassembler.
Biden a, lui aussi, subi les critiques du sénateur du Vermont, Bernie Sanders, pour son soutien à la guerre en Irak. Sanders a dit craindre une aggravation de la confrontation avec l'Iran.
Et maintenant, ce que je crains le plus, c'est que nous ayons un président qui ment encore et qui pourrait nous entraîner dans une guerre pire que la guerre en Irak.
Même préoccupation pour l'ancien maire de South Bend dans l'Indiana, Pete Buttigieg, ancien combattant de la guerre en Afghanistan.
Nous pouvons rester engagés sans engager les troupes au sol sans fin. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que le président envoie en réalité plus de troupes.
Certains des candidats veulent réduire la présence militaire américaine au Moyen-Orient. Pour Elizabeth Warren, la sénatrice du Massachusetts, il est temps de retirer les troupes américaines d'Afghanistan.
Personne n'a de solution ni d'objectif final. Nous devons retirer nos troupes de combat et ne contribuent pas à créer plus de sécurité pour les États-Unis ou pour la région.
Pour Tom Steyer, milliardaire et novice en politique, il est temps d'avoir une nouvelle approche de la sécurité nationale.
Ce n'est pas tant une question d'expérience que de jugement. Parce que vous avez écouté ce que nous entendons, ce sont 20 ans d'erreurs du gouvernement américain au Moyen-Orient.
Les candidats démocrates se sont aussi demandé qui était le mieux outillé pour battre le président Donald Trump aux élections. Elizabeth Warren a cherché à rejeter l'idée qu'une femme serait désavantagée.
Une femme peut-elle battre Donald Trump? Regardez les hommes présents à ce débat. Collectivement, ils ont perdu 10 élections. Les seules personnes sur cette scène qui ont remporté toutes leurs élections sont les femmes, Amy Klobuchar et moi.
C'était le dernier débat des démocrates avant que les électeurs de l'Iowa ne se rendent aux urnes le 3 février pour le début des primaires. Selon le processus, sélectionnera le candidat démocrate qui affrontera le président Donald Trump en novembre prochain.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Firmin Max Ruyaweda était à la mise en onde. Dan Crawford était à la console. À la présentation, Ekia Badou. Merci pour votre écoute et excellente suite de programme à l'écoute de VOA Afrique.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.